Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, sur quelle mystérieuse planète vivons-nous ?
Oui, et tout d'abord, quoi de mieux pour lancer une campagne électorale qu'une bonne vieille conférence de presse ? Alors pas n'importe laquelle, évidemment. Une conférence retransmise en direct sur 3 chaînes télévisées et autant de radios avec face à soi, disons, un bon millier de journalistes brandissant des pancartes en tout genre dans l'espoir d'améliorer leurs chances d'obtenir le micro. Bref, une grand-messe comme Vladimir Poutine les aime et surtout à laquelle il est rodé puisque, comme le rappelle le site russe RBC Daily, à l'exception de la période où il était Premier ministre, voilà 18 ans que le chef du Kremlin se prête chaque année à l'exercice. Alors hier, évidemment, l'événement était un peu particulier puisqu'il s'agissait de marquer le coup d'envoi de la campagne électorale. Et comme l'issue du scrutin ne fait guère de doute, cela signifie qu'au terme de son prochain mandat, en 2024, Vladimir Poutine aura passé 24 ans aux commandes de son pays, ou dit autrement, dans l'histoire contemporaine de la Russie, il n'y aura plus que Joseph Staline pour dépasser une telle longévité. Mais l'usure du pouvoir touchant n'importe quel dirigeant, constate le temps, un soin particulier devait donc être apporté à la préservation d'une illusion de démocratie, d'où ce fameux jeu de questions-réponses. En réalité, Vladimir Poutine s'est d'autant plus volontiers prêté à l'exercice qu'il ne risquait pas grand-chose durant cette séance d'amour qui aura duré 4 heures, ironise le site de CBC. De nombreuses réponses de Poutine ont été suivies d'applaudissements soutenus. Quant aux médias occidentaux, ils n'ont été sollicités que 2 fois. En clair, poursuit le correspondant de la chaîne canadienne, l'événement aura plus souvent ressemblé à une scène du parrain qu'à un véritable exercice de questions-réponses avec des journalistes. La seule question qui fâche en réalité aura été posée par la journaliste de la chaîne de télévision indépendante Dojd, Ksenia Sobchak, également candidate à la présidentielle. Être opposant en Russie, a-t-elle lancé, cela signifie qu'on va soit te tuer, soit te coller en prison. Et d'ajouter, pourquoi le pouvoir a-t-il si peur de la concurrence ? Le pouvoir n'a peur de personne, a aussitôt répliqué Vladimir Poutine, brandissant le chiffon rouge de l'Ukraine, aujourd'hui en proie à une fronde politique menée par l'opposant Mikhail Saakachvili. Vous voulez que nous ayons des tentatives de coup d'État ? Je suis convaincu qu'une majorité de citoyens russes ne le veut pas et ne le permettra pas, à bon entendeur, conclut simplement le correspondant du Temps. Et puis s'agissant cette fois-ci des accusations de collusion entre les autorités russes et l'entourage de Donald Trump, Vladimir Poutine a répondu que tout cela avait été inventé par les gens dans l'opposition contre Trump. De son côté, The Washington Post rapporte lui ce matin qu'un nouvel email du publicitaire Rob Goldstone fait mention d'une possible réunion entre Poutine et Trump pendant la campagne électorale. La rencontre, qui n'a finalement pas eu lieu, devait se tenir à l'occasion d'une fête d'anniversaire pour le père de l'un de ses clients à Moscou. Rappelons que Rob Goldstone, c'est lui déjà dont un précédent mail avait établi qu'il avait proposé au fils aîné de Trump de rencontrer un avocat russe, lequel affirmait pouvoir l'aider à discréditer Hillary Clinton.
Et direction à présent les États-Unis justement, où Donald Trump a réussi hier à tuer la neutralité d'Internet.
Oui, comme attendu, la Commission fédérale des communications a voté par 3 voix contre 2 pour abolir ce principe, ce qui signifie que les fournisseurs américains d'accès à Internet pourront désormais gérer leur réseau comme ils le souhaitent. D'où cette question soulevée par le site Popular Mechanics, l'âge d'or d'Internet touche-t-il à sa fin ? La suppression de la neutralité du net n'est pas catastrophique, dit-il, au sens où elle n'anéantira pas immédiatement et complètement le web, mais elle crée un prisme qui intensifiera les défauts d'Internet à un niveau plus fondamental qu'avant, en clair conclut l'article. La fin de la neutralité du net nous engage sur une pente glissante dont on risque de ne pas se relever.
Et dans ce monde où décidément plus rien ne nous étonne, on apprend que Madrid est en train de blinder sa frontière pour empêcher un retour furtif de Carles Puigdemont.
Oui, poursuivi par la justice espagnole, l'ex-président catalan est réfugié, vous le savez, en Belgique depuis le 30 octobre dernier, d'où il mène campagne en vue des élections régionales du 21 décembre. Or, d'après El Periodico, repéré par le Courrier international, la police a détecté des indices laissant croire que Puigdemont pourrait faire une apparition éclair pour motiver ses troupes. Le gouvernement en est convaincu. Dans l'entourage de Puigdemont à Bruxelles, certains prônent de frapper un grand coup en faisant rentrer leur leader le temps d'un meeting, indique le journal catalan. D'après son confrère en ligne OK Diario, le plan consisterait à faire passer la frontière à Puigdemont en le maintenant caché dans une voiture. Du coup, le ministère de l'Intérieur a ordonné de renforcer les contrôles à la frontière avec la France. Pour la police espagnole, il est hors de question que ce retour ait lieu, car il pourrait non seulement mobiliser un peu plus encore les séparatistes lors des élections, mais constituerait surtout une humiliation pour Madrid. Enfin Guillaume, pour tous ceux qui souhaiteraient quitter la Terre, quelle que soit leur motivation pour rejoindre la mystérieuse planète rouge, sachez que pour comprendre la vie sur Mars, vous pouvez déjà commencer commencé par visiter le désert de Danakil en Éthiopie, non loin de la frontière érythréenne. On trouve en effet l'une des régions les plus inhospitalières et les moins documentées au monde. Là-bas, les sels jaunes acides qui recouvrent une épaisse couche de lave durcie font de cette dépression la zone terrestre qui ressemblerait le plus à Mars, rapporte le site de Conversation. Alors le tableau n'est pas des plus idylliques, des gaz toxiques saturent l'air, le pH y est extrêmement acide, mais les nouveaux chercheurs qui s'y aventurent, précise le magazine Slate, y ont tout de même trouvé des formes de vie microbiennes de l'ordre des extrémophiles, comprenez ces organismes qui se développent seulement dans des milieux extrêmes, en l'occurrence d'un point de vue purement humain.